Le diplomate et les Français de l'étranger, comprendre les pratiques de l'État envers sa diaspora. Tel est le titre du dernier livre de Christian Lequen qui vient de paraître aux éditions Presse de Sciences Po. C'est un ouvrage qui est le résultat de recherches, notamment avec des entretiens dans les ambassades et auprès des Français établis hors de France. L'auteur, Christian Lequen, est professeur à Sciences Po Paris. Explication.
Dans mon précédent livre, qui s'appelait « Ethnographie du Quai d'Orsay », j'essayais de comprendre de manière générale les pratiques des diplomates français. Et je le faisais non seulement à Paris, mais aussi dans les ambassades. Et en faisant mes entretiens dans les ambassades, je me suis rendu compte que les questions consulaires, les questions qui étaient gérées par les consuls, dans le fond, on n'en parlait quasiment jamais dans la recherche en sciences sociales. Et pourtant, ça offrait beaucoup, beaucoup de thèmes de réflexion, notamment dans une période où on a de plus en plus de mobilité internationale, où les Français aussi émigrent. On parle toujours de l'immigration en France, mais on oublie de dire qu'il y a aussi une émigration française vers l'extérieur. Et donc, je me suis dit, dans ces questions consulaires, il y a vraiment la relation avec les Français de l'étranger, ce qu'on appelle dans d'autres pays la diaspora. En France, on n'utilise pas tellement ce terme non plus. Et voilà comment je me suis lancé dans cette recherche de plusieurs années. Et ça avait aussi un intérêt, c'est parce que quand on parle du travail du diplomate, on a souvent l'habitude de dire qu'il concerne l'étranger, mais parfois le diplomate travaille aussi avec des citoyens nationaux. Et c'est exactement le thème de mon livre, c'est la relation entre le diplomate et les Français qui habitent en dehors du territoire national.
Dès l'entame de votre livre, vous parlez de deux concepts, le concept de diplomatie consulaire et de diplomatie de diaspora. Qu'est-ce que c'est très concrètement ?
Alors effectivement, ça me permet de faire une différence entre, d'un côté, la diplomatie consulaire qui est une diplomatie de protection des citoyens vivant à l'étranger. Et dans le cas français, cette protection est plutôt plus généreuse que dans la moyenne des États, puisqu'elle aborde même la question des aides sociales, de l'État-providence, avec des bourses qui sont données pour les élèves qui en ont besoin, bien sûr, mais qui fréquentent les établissements français à l'étranger. Donc, c'est toute l'activité de protection que j'appelle la diplomatie consulaire. En revanche, la diplomatie de diaspora, c'est différent. Diplomatie de diaspora, ça consiste pour le diplomate à utiliser l'acteur français de l'étranger ou l'acteur diasporique pour essayer de faire de la diplomatie dans les pays du monde. C'est-à-dire, c'est essayer, dans le fond, de transformer dans la mesure du possible l'acteur diasporique en un ambassadeur privé aussi qui aide la diplomatie de la France. Et je crois que cette deuxième pratique est plus difficile pour les diplomates français que la première.
Quel peut être l'impact de la diaspora sur la diplomatie d'influence et vice-versa ?
Alors je pense qu'en France, pour l'instant, elle n'est pas trop importante, sauf pour ce qui est quand même, disons, des entreprises. Mais là, on ne parle pas des acteurs diasporiques à titre individuel, on parle d'acteurs collectifs. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont à l'étranger, qui font partie des conseillers du commerce extérieur, etc., la diplomatie française essaie de les prendre en compte. Mais on pourrait très bien imaginer aussi que on prenne davantage en compte les gens influents, notamment pour essayer de faire une diplomatie plus politique. Je prends un exemple, en Inde, les ambassadeurs utilisent les Indiens qui sont émigrés et influents dans des pays du monde pour essayer de toucher des hommes politiques ou du personnel politique. Au Mexique, sachant qu'il y a une grande diaspora mexicaine qui vit aux États-Unis, quand il s'est agi de signer le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, les consulats mexicains aux États-Unis, il y en a 50, avaient comme mission de cibler les Mexicains vivant aux États-Unis influents pour qu'ils fassent pression sur le Congrès. Voilà, ça c'est de la diplomatie d'influence. Et ça, je crois qu'on a beaucoup plus de mal à le faire en France, parce qu'en France, il y a la tradition de l'État qui représente l'intérêt général. Et on a toujours peur que lorsqu'on mélange cet intérêt général avec les stratégies des acteurs privés, justement, on y porte atteinte. Et je crois que c'est lié à la tradition de l'État français qui reste, en matière de diplomatie, un État qui ne partage pas tellement la décision, qui est un État assez régalien.
Plus globalement, quel est le rôle du diplomate auprès des Français de l'étranger ?
D'abord, il faut dire qu'il y a un certain nombre de Français de l'étranger qui n'ont pas de contact avec les autorités consulaires. Parce qu'ils ne veulent pas en avoir, ou parce qu'ils vivent depuis fort longtemps dans un pays et que malgré le fait de posséder un passeport français, on a un peu perdu le contact avec la France. Donc les Français dont nous allons parler là sont ce que j'appelle les Français visibles pour les autorités consulaires. Bien, les services qui sont offerts en France sont quand même des services larges, puisque vous avez toute la production documentaire, hein, c'est-à-dire on peut refaire ses papiers quand on est à l'étranger. Alors évidemment, il y a des consulats qui sont spécialisés dans le documentaire et d'autres qui ne le font plus, mais enfin, il y a quand même ça. Deuxièmement, il y a le réseau des écoles. C'est quand même assez unique d'avoir un État qui donne chaque année 500 millions d'euros, dont 100 millions de bourses pour les établissements scolaires du réseau français, qui ne sont pas d'ailleurs tous en gestion directe, qui sont souvent des établissements privés, mais qui sont agréés par une agence qu'on appelle l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Et puis ce sont les aides sociales. Il ne faut pas oublier que tous les Français de l'étranger ne sont pas des gens qui connaissent le succès économique. Il y a des gens qui peuvent être aussi dans des situations difficiles, de précarité, qui peuvent avoir des enfants handicapés. Et là, il y a la possibilité de bénéficier d'aide sociale. C'est 15 millions sur le budget du ministère des Affaires étrangères à peu près chaque année. Si vous ajoutez à ça les campagnes de vaccination au moment de Covid, si vous y ajoutez le rapatriement possible lorsqu'il y a des situations de guerre civile ou même de catastrophes naturelles, on peut dire quand même que en France, l'État d'origine, donc, essaie de conserver un lien très fort avec les Français de l'étranger, parce que on considère que dans une conception universelle de la citoyenneté, celle-ci n'a pas de frontières.
Alors, dans votre livre, vous parlez aussi du retour d'expatriation. L'impatriation, comme on dit, est souvent complexe.
Et oui, quand vous avez vécu ne serait-ce que 8 ans ou 10 ans à l'étranger et vous voulez rentrer en France, vous avez parfois le sentiment de ne pas être attendu les bras grands ouverts. Alors, il y a tout un tas de problèmes qui se posent. D'abord, il y a des problèmes administratifs, l'équivalence scolaire pour les enfants. Alors, s'ils ont fréquenté les établissements français à l'étranger, ça facilite les choses, mais tous ces enfants n'ont pas été scolarisés forcément dans ces établissements. Il faut se faire établir une carte de sécurité sociale. Tout ça, ce sont des choses difficiles. Il faut essayer de faire valoir ses points de retraite, etc. Et puis, il y a aussi le fait que vous pensez parfois que vous pouvez valoriser très fortement votre expérience internationale, parce que pour vous, avoir vécu à l'étranger, ça a été quelque chose de formidable, vous avez beaucoup appris, etc. Puis vous vous rendez compte que dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'administration, l'international, on n'y attache pas une importance si grande que cela. Voilà. Et c'est vrai dans tous les métiers, y compris l'enseignement supérieur. Quand vous avez vécu à l'étranger comme professeur dans l'enseignement supérieur et que vous rentrez en France, on peut vous dire des choses comme vous n'avez pas publié suffisamment en langue française, etc., etc. Et quelque part, vous êtes déçu. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est très important de bien préparer un retour en France et de ne pas aborder ce retour d'une façon trop neutre. Il faut être armé, y compris à surmonter des obstacles.